Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord, surtout Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors dans ce journal, l'opération Classe Nette d'une ampleur inédite se poursuit à Marseille pour tenter d'éradiquer le trafic de drogue dans la cité de la Castellane. 4000 policiers mobilisés pendant plusieurs semaines avec une visite surprise ce matin, celle du président de la République. Et pendant ce temps-là, alors que la colère monte à nouveau, Gabriel Attal reçoit à Matignon la FNSEA et les jeunes agriculteurs. L'actualité, c'est aussi cette information, Europe 1. 3 nouvelles interpellations dans l'affaire du homejacking au domicile de l'animateur Bruno Guillon. Et puis un cépage alsacien qui décroche le titre de meilleur vin blanc du monde. Tous les détails à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo pour cet après-midi.
Eh bien, le soleil s'impose sur la majorité du pays, excepté près de la Manche et sur l'extrême nord-est. Les températures sont toujours aussi très douces, 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Elles varient entre 14 et 20 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 18 à 23 degrés plus au sud. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec le projet de loi sur la fin de vie. Le gouvernement l'a remis au Conseil d'État. Première escale du long processus qui vise à instaurer en France une aide à mourir strictement encadrée. Alors il sera présenté ce projet dans le courant du mois d'avril en Conseil des ministres. En attendant, la majorité présidentielle en a discuté ce matin en interne à l'Assemblée nationale. Une majorité, Jacques Seret, loin d'être unie sur ce sujet extrêmement sensible.
Oui, comme si les atermoiements d'Emmanuel Macron avaient semé le trouble, les députés de la majorité ne parlent pas d'une seule voix sur la fin de vie. D'un côté, ceux qui défendent bec et ongle la démarche du président, voire qui souhaitent aller plus loin encore, comme l'accès au suicide assisté pour les mineurs ou la légalisation de l'euthanasie, telle que le préconise Olivier Falorni, pressenti pour le poste de rapporteur. De l'autre, des parlementaires qui n'hésitent pas à faire part de leur réticence, voire de leur gêne vis-à-vis de ce projet de loi. C'est face à cette majorité présidentielle écartelée que s'est exprimée ce matin Catherine Vautrin. La ministre a voulu, je cite, « rassurer les uns et les autres ». Elle est consciente des interrogations, rapporte un de ses proches. Mais sa conviction à elle semble toute faite. Catherine Vautrin est sur la ligne du président, assure son entourage. Dans cette logique, le travail parlementaire pourrait prendre du temps, beaucoup de temps. Ici, au Palais Bourbon, tous s'accordent à dire que le cheminement de ce texte devrait durer au moins 18 mois, voire 2 ans.
Jacques Seret à l'Élysée pour Europe 1. Alors la question du suicide assisté pour les mineurs, la légalisation de l'euthanasie, vous voulez réagir, échanger avec mes chroniqueurs Jean-Claude Dacier et Paul Melun, eh bien appelez-nous dès 13h20, Europe 1 13h vous donne la parole.
Vous pouvez composer dès maintenant le 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Il est 13h03 sur Europe 1, la suite du journal avec vous Céline Géraud.
Et l'actualité de ce mardi 19 mars, c'est aussi cette intervention policière d'une ampleur inédite à Marseille pour éradiquer le narcotrafic. Au trafic, nom de code de l'opération Place Nette XXL. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti étaient sur le terrain ce matin avant la visite surprise d'Emmanuel Macron dans la cité de la Castellane, Stéphane Burgat, qui a complètement chamboulé le programme.
Oui, et donc voilà, Emmanuel Macron qui est au pied de ses tours à la Castellane où s'affiche un portrait de Zinedine Zidane, l'enfant de la cité. Emmanuel Macron qui multiplie les autographes, répond aux questions des habitants depuis plus de 2 heures maintenant. Le président qui s'engage avec cette opération Place Nette XXL, écoutez, à nettoyer les cités gangrénées par le trafic de drogue.
Ce qu'on est en train de faire, c'est une opération de lutte contre les trafiquants de drogue et tous les trafics. Là, il y a eu une très grosse opération hier qui va durer plusieurs semaines partout sur Marseille, vous avez vu. Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent.
Voilà, que les dealers s'en aillent ou bien qu'ils soient arrêtés. Les interpellations se multiplient depuis au moins un an. 90 interpellations qui sont revendiquées par la préfecture de police avec la promesse d'intensifier les opérations de pilonnage dans les cités, mais aussi de poursuivre ces arrestations, dont des chefs de réseau. Quelles sont les attentes ici? Comment réagissent les habitants? Jean-Daniel, par exemple, a envie d'y croire, mais il sait bien que ça sera compliqué.
Il faut essayer pour voir si pendant un mois, les forces de l'ordre, il y a tous les trucs et tout, ils arrivent, ils ne peuvent pas vendre. Et ben, à un moment donné, ça ne marchera plus après. Hein. Mais après, ils vont revenir.
Il y a du boulot, quoi.
Ben oui, il y a pas mal de travail à faire. Hein. Mais il faut bien commencer. Il faut le faire, il faut commencer.
Voilà, un espoir assez mince pour tout le monde ici, pas vraiment d'enthousiasme car ce ne sont pas les premières promesses ni les premières opérations policières dans ces cités où tout a échoué jusqu'à présent.
Stéphane Burgat, le correspondant Europe 1 à Marseille. Alors une visite surprise, un bain de foule, des échanges parfois musclés avec les habitants et sur tous les sujets. Arthur Delaborde, pourquoi ce déplacement? Quelle est l'ambition d'Emmanuel Macron?
C'est une posture de fermeté qu'Emmanuel Macron veut incarner sur le terrain. Dans sa conférence de presse au mois de janvier, il avait demandé 10 opérations place nette chaque semaine. Lorsqu'il s'était rendu déjà à la Castellane en juin dernier, le président avait expliqué que Marseille était en quelque sorte une ville laboratoire sur laquelle le chef de l'État engageait de très gros moyens. Il revient donc sur place pour montrer que la lutte contre les stupéfiants n'est pas seulement l'affaire de son ministre de l'Intérieur, mais qu'elle est portée au plus haut niveau de l'État. À moins de 3 mois des européennes, c'est aussi un déplacement de campagne pour Emmanuel Macron. Il lui permet d'occuper l'espace et d'être au centre de l'attention médiatique. Le président veut montrer qu'il n'y a pas de zone de non-droit et qu'il peut aller partout au contact de la population, des habitants qu'il interpelle sur tous les sujets, l'emploi, les problèmes du quotidien et même la situation internationale, puisqu'il y a eu plusieurs échanges, notamment sur la guerre en Ukraine et la situation à Gaza.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, à Matignon, Gabriel Attal a reçu ce matin une délégation de la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour tenter d'éteindre les braises d'une nouvelle fronde. La FNSEA a présenté 5 grands sujets prioritaires pour sortir de la crise. Margot Faudéry, on a beaucoup parlé sur Europe 1 d'ailleurs. Ce qui coince, c'est le versement de l'intégralité des aides de la PAC. Mais il y a aussi d'autres urgences à régler.
Oui, il y a d'abord la question très sensible des éleveurs qui attendent toujours le soutien annoncé de 150 millions d'euros. Il y a aussi le dossier des retraites des agriculteurs. Et pour Jean-François Lamassé, administrateur à l'Association Générale des Producteurs de Blé, sur ce point-là, le gouvernement ne fait que reculer.
Il était prévu qu'on prenne les 25 meilleures années des agriculteurs pour leur établir leur retraite. C'est de rentrer en vigueur en 2026 et maintenant, il nous parle de 2028, encore du baratin.
De son côté, Matignon maintient que la réforme des retraites agricoles entrera bel et bien en vigueur en 2026, précisant néanmoins que les modalités de mise en œuvre sont toujours en discussion. Et puis, il y a encore un autre dossier, c'est celui de l'eau. Les agriculteurs veulent pouvoir stocker plus facilement de l'eau de pluie pour anticiper les épisodes de sécheresse ou de canicule. Mais pour l'instant, aucune mesure concrète n'a été prise, relève Hervé Lapi, le secrétaire général de la FNSEA.
On a trop de projets en France qui sont ouverts depuis 10, 15 ans, qui n'ont toujours pas vu le jour. Et comment est-ce qu'on améliore le dispositif réglementaire pour qu'on ait les autorisations plus rapides et que ça puisse se mettre en place?
En tout cas, le ministère de l'Agriculture assure que le projet de loi qui doit être présenté à la fin du mois répondra à ce sujet.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1 et j'ajoute que Gabriel Attal a prévu de revoir 2 délégations de la FNSEA et des jeunes agriculteurs lundi. Allez, on reste ensemble bien sûr sur Europe 1 dans quelques instants, la suite du journal. 3 nouvelles interpellations dans l'affaire du homejacking de l'animateur Bruno Guillon, c'est une information Europe 1. Les vols de petits bateaux de plaisance par des migrants qui se multiplient à Saint-Omer. Et le prix du meilleur vin blanc du monde décerné à un cépage français. On vous dit tout dans quelques instants.
Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Il est 13h10, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez le journal de Céline Giraud.
Et souvenez-vous, dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier, l'animateur Bruno Guillon et sa famille avaient été victimes d'un homejacking particulièrement violent et traumatisant. William Molinier, c'est une information Europe 1. Il y a eu 3 nouvelles interpellations.
Oui, ces arrestations remontent à mercredi dernier. 3 hommes ont été interpellés à Paris et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir réalisé des repérages en amont du homejacking qui a visé Bruno Guillon et sa famille. En octobre dernier, 2 mineurs de 16 ans avait déjà été mis en examen pour avoir directement participé au cambriolage. Ces 3 hommes interpellés mercredi sont âgés de 18, 19 et 21 ans. Eux n'auraient pas été présents sur place, mais ils auraient transmis des informations aux jeunes cambrioleurs. Reste à savoir s'ils en ont été les commanditaires. À ce stade, le parquet de Versailles n'était pas en mesure de nous préciser les suites judiciaires. Le butin n'a pas non plus été retrouvé. Des bijoux, des sacs de luxe et des montres avaient été volés pour un préjudice estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cambriolage particulièrement violent puisque l'animateur avait lui-même été braqué avec une arme au niveau de la tempe par un des malfaiteurs qui s'en était ensuite pris à son épouse avant de la ligoter et de la bâillonner.
Merci William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1. En bref, sachez qu'à 128 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, un indicateur, plus de 2 franciliens sur 3 resteront en Île-de-France pendant l'intégralité de la période olympique, soit plus de 8,5 millions de personnes. Et parmi elles, eh bien, un tiers déclare vouloir même profiter de l'événement, résultat d'une étude Harris Interactive publiée ce matin. 13h12, dans cette Europe 1, 13h, je voulais revenir maintenant sur ces vols de petits bateaux de plaisance qui se multiplient dans la région de Saint-Omer. Le 4 mars, un groupe d'une quinzaine de migrants embarqués sur un tout petit bateau volé avait fait naufrage sur le canal de l'Aa, provoquant la mort d'une fillette de 7 ans. Lionel Gougelot a rencontré un habitant de la petite commune de Watt, victime de ce nouveau type de vol qui inquiète les autorités.
Son petit bateau de promenade, Eric Blin, retraité depuis peu, l'avait acheté pour des balades à travers les canaux du marais de Saint-Omer.
Mon bateau était amarré avec 2 chaînes, cadenas sur mon bateau. Et le 9 février, plus de bateau.
Un bateau volé 30 km dans l'intérieur des terres par un petit groupe de migrants décidés à rejoindre l'Angleterre en évitant les contrôles sur le littoral.
Ils prennent tous les petits cours d'eau. Avec des fonds plats, on passe partout. On évite les écluses. Ensuite, on prend direction canal de Calais. Et après, le chenal de Gravelines. Et on est en pleine mer.
Repérés par les gendarmes, les migrants sont malgré cela parvenus à gagner la Grande-Bretagne.
Mon bateau est en Angleterre. À l'heure actuelle, on se parle aujourd'hui, ils ont réussi leur traversée. Ouais, c'est des inconscients, on va dire. Parce que c'est des bateaux en bordure de côte, je veux bien à la rigueur, mais pas le grand large.
Alors Eric Blin ne sait pas quand il récupérera son bateau, mais sa crainte maintenant, c'est que d'autres vols de ce type se multiplient dans le marais.
Avec le recul, j'en veux plus aux passeurs. Ici, il doit y avoir sûrement un réseau, parce que vu le nombre de vols qu'on a, il doit y avoir un réseau de passeurs dans le coin, c'est pas possible autrement.
Des réseaux toujours plus imaginatifs pour vendre très cher aux migrants des moyens de traverser la Manche.
Le reportage de Lionel Gougelot, le correspondant européen dans les Hauts-de-France.
Le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles.
Et dans ce journal, Céline, vous nous parlez d'un prestigieux concours, le mondial des vins blancs.
Oui, bercé par la mélodie de Lina Margy, que nos auditeurs ont reconnue, bien sûr. Cette année, ce mondial se tenait à Strasbourg. Alors une fois encore, la concurrence était féroce entre les producteurs de vins blancs du monde entier, 26 pays représentés. Mélina Fachin, parmi tous les échantillons goûtés par le jury, Ipipipoura, c'est un vin blanc moelleux alsacien qui décroche le premier prix.
Et oui, c'est la cuvée 2021 du Gewürztraminer, vendange tardive du domaine Rühlmannschütz à Dambach-la-Ville qui l'emporte, récompensé parmi 651 autres vins. Alors Antoine Schütz, le vigneron, n'en revient toujours pas, mais reconnaît de grandes qualités à son vin.
Alors, je pense que c'est son côté chaleureux, sa douceur, c'est un vin donc liquoreux. Il a un nez qui est très très expressif, on a tout de suite une sorte de parfum qui arrive directement au nez. Donc je pense que c'est ce qui a fait vraiment la différence lors de ce concours.
Son frère Thomas et lui espèrent maintenant que cette distinction va booster leur chiffre d'affaires et leur renommée.
Ça fait quand même un bon coup de pub, puisqu'on reçoit plein de messages de félicitations.
On espère forcément que cela va nous ouvrir de nouvelles portes, que ce soit en restauration, mais également à l'export. Cette nuit, on a déjà eu pas mal de commandes en ligne sur notre site internet. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir d'avoir cette reconnaissance-là.
Alors, vous me connaissez, Céline, je suis une grande professionnelle, donc évidemment, je me suis sentie obligée de goûter
bien
ce Gewürztraminer. À 22,50€ la bouteille, je précise, et je vous confirme qu'il est excellent, tout en finesse, en nuance, et puis c'est bien la preuve, en toute objectivité, que c'est en Alsace qu'on fait les meilleurs vins blancs au monde.
Attention, les producteurs de Chablis et de Sancerre vont nous appeler. Merci beaucoup, Mélina Fachin, correspondante Europe 1 dans le Grand Est, à consommer, bien sûr, avec modération. Allez, 13h15, on fait un point sur les marchés avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Petite hausse du côté du CAC 40.
Le CAC qui gagne 0,4%, 8177 points, ça ne bouge pas beaucoup. On attend les décisions de plusieurs banques centrales et notamment celle de la Fed aux États-Unis demain soir. Ces taux ne devraient pas bouger, mais ces commentaires sont très attendus. À Paris, la sanction du jour est pour Atos, chute de 22%. Fin des discussions avec Airbus pour la cession de ses activités cybersécurité et big data. C'est un coup dur pour Atos qui connaît de lourdes difficultés financières. Sa dette s'élève à 2,4 milliards d'euros et Airbus de son côté gagne 2% et prend la tête du CAC 40. Et puis toujours de la prudence en Europe. Francfort est stable, Londres 7,03%, plus 0,4% à Paris pour le CAC 40. On est à 8177 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com. Allez, place à la météo.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco, Demeco, Demeco.
Demeco, Demeco, Géraldine. La météo de ce mardi après-midi avec vous, un temps ensoleillé et des températures élevées.
Oui Céline, 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Il fera 15 degrés à Brest, 17 degrés à Quimper et Strasbourg, 18 à Caen, 19 degrés à Paris, 20 degrés à Auxerre, 21 à Bordeaux, 22 degrés à Nîmes, jusqu'à 24 degrés à Cahors et 25 degrés à Carcassonne. Côté ciel maintenant, le soleil gagne du terrain et devient généreux, notamment dans le sud-ouest, près de la Méditerranée et en Corse, du massif centrale de la Bourgogne jusqu'au nord de Rhône-Alpes au Grand Est. Les conditions sont aussi printanières, même si les nuages, attention, s'imposent sur les frontières du Nord-Est. De belles éclaircies se développent aussi au nord de la Loire, mais les nuages seront plus présents sur les côtes, notamment près de la Manche. Et c'est un ciel qui devient variable avec le développement de cumulus, des cumulus qui donnent sur les Pyrénées quelques ondées parfois orageuses sur l'est de la chaîne. Et demain, eh bien, ce sera la plus belle journée de la semaine avec soleil et grande douceur qui vont dominer. Quelques ondées orageuses sont tout de même à prévoir sur l'ouest du pays.
Merci Géraldine Hamon. 13h17, on reste ensemble évidemment avec vous chers auditeurs d'Europe 1 jusqu'à 14h et dans quelques instants avec Jean-Claude Dacier et Paul Melun, on va revenir sur cette visite surprise d'Emmanuel Macron. Le projet sur la fin de vie, faut-il aussi interdire les changements de genre aux personnes mineures? Les sénateurs LR vont déposer une proposition de loi sur le sujet. Et puis dans nos écoles, les groupes de niveau qui deviennent des groupes de besoins, tout ça pour ça. Allez, venez réagir, on vous attend dès maintenant au 01 80 20 39 21.
Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Décryptage de l'actualité aujourd'hui, Céline, avec vos deux chroniqueurs du jour, Jean-Claude Dacier et Paul Melun.
Bonjour Paul, bonjour Jean-Claude.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
On va évidemment dérouler l'actu. Tiens, on va commencer par cette visite surprise d'Emmanuel Macron. Ça ne vous a pas échappé, hein, le lancement donc de cette opération sans précédent. Hein. Opération PlaceNet XXL, destinée à porter un coup d'arrêt au trafic de drogue qui gangrène donc cette ville de Marseille. À quoi joue Emmanuel Macron, Paul Melun?
Il joue à nous faire un certain nombre d'annonces. On a l'impression que le disque est un peu rayé, voyez-vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y retourne, à chaque fois, il nous annonce un côté un petit peu retenez-moi, je fais un malheur, un peu comme sur la guerre en Ukraine. Il arrive, il nous explique à quel point est-ce que Marseille va changer. Il en a fait une sorte de laboratoire, si j'ai bien compris. Quand on voit le laboratoire, on a un peu l'impression du laboratoire du docteur Frankenstein. C'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné. Hein. La phase pilote, etc. Tout ce qu'il nous avait dit, vous vous souvenez quand il y était allé la dernière fois, pas celle-ci, celle d'avant. Il avait dit les entrepreneurs, etc.
Il y avait l'école nouvelle aussi, voilà.
Il voulait faire beaucoup de choses. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense que, et ce n'est pas de la mauvaise volonté probablement de la part du président de la République, mais la situation à Marseille au plan du trafic de drogue est une situation qui, si on venait à la résoudre, probablement qu'il faudrait une décennie ou deux ou plus. C'est pas quelque chose, si vous voulez, qui se résout tout de suite. Il y a des réseaux très importants. La drogue, aujourd'hui, elle s'est mondialisée. Les flux circulent de partout. Un certain nombre de chefs des réseaux ne sont même pas en France, ils sont à l'étranger. Les capitaux circulent dans ce nouveau monde. Les êtres et les individus circulent aussi. Donc, si vous voulez vraiment agir, il faut faire autre chose que d'envoyer un bulldozer, de détruire un point de deal et de dire on a solutionné le problème de la drogue.
Ils ont pilonné les points de deal, ils ont envoyé 4000 policiers. C'est quand même une opération d'une ampleur inédite.
Oui,
hein.
Mais enfin, inédite. Mais si vous voulez, l'opération est d'une ampleur inédite aussi parce que la situation est d'une ampleur inédite.
Absolument.
Mais le problème, c'est qu'elle va continuer à être de plus en plus importante et que je ne sais pas combien il va falloir de bleus dans les rues, d'opérations coup de poing pour en arriver à bout. Parce que la situation là, elle s'empire d'année en année.
Avait-il vraiment besoin de se déplacer à Marseille alors même qu'il y avait le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur qui avait prévu un
déplacement? Poser la question, c'est commencer à y répondre. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'il avait un chewing-gum. Vous n'avez pas vu ça?
Non. Quand j'ai vu les bains de foule, moi j'ai vu les échanges musclés parfois.
Quand il écoutait, Dieu sait qu'il a écouté beaucoup. Il a parlé un peu, il a écouté beaucoup, il mâchonnait. Bon, ça m'a un peu choqué, j'ai refermé la parenthèse très vite.
Tant qu'il ne fait pas des bulles avec le chewing-gum.
Tant qu'il ne fait pas de bulles, oui, tu as raison. Pour le reste, c'est vrai qu'il a un peu escamoté Darmanin et Dupond-Moretti. Ce midi, on ne les a pas beaucoup vus. Maintenant, moi, je ne peux qu'approuver la démarche. Maintenant, il faut qu'elle soit, faut qu'elle ait des résultats. Parce que si
mais
dans...
Quelle démarche? Parce que il n'a pas tellement parlé. Enfin, il a parlé évidemment du problème
drogue.
Des drogues.
Là, je parle de la démarche drogue.
Parce qu'il a quand même été chahuté, bousculé sur des questions autour de l'Ukraine, du conflit en Israël.
Moi, je veux bien, en effet, qu'on dise encore un mot de cela. Il adore les bains de foule. Il adore
les selfies.
Il adore faire des selfies. il adore se replonger un peu
dans la Castellane. Il est en campagne.
Peut-être, oui. Et puis, bon, à la Castellane, c'est un quartier que je connais un peu. C'est vrai que c'est assez sportif. Alors, il a eu deux ou trois interlocuteurs qui lui ont reproché son discours ambigu sur le Proche-Orient, pas assez sévère avec Israël. Il y a eu une question sur l'Ukraine, il y a eu des questions sur le rôle des policiers à Marseille. Bon, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça fait partie, comment dire, du charme, entre guillemets, de la visite. Moi, ce que je vois en revanche, c'est qu'il a appuyé la démarche de Macron, de Darmanin et de Dupond-Moretti avec, s'il n'y a pas de résultat, ils sont mal, tous les trois. Alors, les résultats, bon, tardent à venir.
C'est spectaculaire.
Le grand sujet qu'il avait lancé en juin patine, semble-t-il, un peu à vérifier quand même. En attendant la drogue, il faut non seulement taper les points de deal, c'est une évidence, il va falloir arrêter du monde, alors, il y en a, paraît-il, déjà 80 d'arrêtés, et ce n'est, semble-t-il, que le début, quasiment, alors là, disons, de la guerre du gouvernement contre la drogue. C'est peut-être pas totalement un hasard si on est à quelques semaines ou quelques mois des présidentielles, mais après tout, nous jugerons des résultats, parce qu'il y a quand même un secteur, la drogue, et les trafiquants, bien sûr qu'il faut essayer et tout faire pour essayer de les réduire le plus possible, je ne fais pas d'illusion, à néant, mais il y a aussi les consommateurs. Pour l'instant, il n'en a pas dit un mot. On va voir, la guerre est partie, le président de la République y est allé, il adore Marseille en plus. Donc on va voir les résultats. Si d'aventure il n'y en avait pas, si ça repart, il y a eu 50 morts l'année dernière, pas loin.
50, oui.
Si ça recommence dans quelques semaines, là, honnêtement, ils vont pas avoir bonne mine.
Jean-Claude Dacier, Paul Melun, on va écouter Antoine qui nous appelle. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Europe 1 13h, bienvenue à bord. Vous habitez à Toulon, vous nous écoutez à Toulon, vous êtes chauffeur, racontez-nous.
Voilà, tout à fait. Donc j'habite à Toulon, à une cinquantaine de kilomètres de Marseille, je suis chauffeur. Et donc, c'est vrai que, déjà, c'est bien qu'il aille à Marseille. En plus, il fait beau. Non, mais c'est, moi, ce que je veux témoigner sur mon quotidien, c'est qu'effectivement, donc, moi, je suis chauffeur, donc, je parcours un peu la ville d'est en ouest, etc., etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué que les points de deal, en fait, ils sont déplacés. C'est-à-dire que les endroits où habituellement il y avait une petite permanence, ils se montrent bien, ils sont bien là, tout le monde sait pourquoi ils sont là. Eh bien, c'est vrai que, en fait, ils ont été déplacés. Alors, c'est très bien pour les problèmes de voisinage qu'on avait marre, et des passages de voitures, de scooters, etc. Mais concrètement, moi, ce que j'en ressens comme simple citoyen qui vit, c'est que en fait, on fait que déplacer le problème. Alors moi je trouve que c'est dommage parce que on sent qu'il y a quand même une mobilisation importante des policiers qui font ce qu'ils peuvent, et heureusement qu'ils sont là. Mais j'ai l'impression que c'est pas assez. C'est-à-dire que là, bon, c'est très bien le répressif, c'est très bien la police, c'est très bien qu'on fasse des descentes, qu'on casse les trafics, etc., etc. Mais je reviens à la personne qui a parlé juste avant, qui a dit le problème, il n'est pas vraiment au niveau du répressif, il est plutôt au niveau du législatif. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une volonté du législateur d'aller vers une sorte d'organisation, une sorte de légalisation. En plus, on a tout ce qu'il faut. On a des réseaux de buralistes. On a vraiment tout ce qu'il faut de façon à que l'État, vienne tout simplement à prendre la main sur ce marché, parce que c'est devenu un marché. Maintenant, le français, il est accro au bédo. C'est fini, quoi. C'est la paix sociale.
Merci Antoine, vous restez évidemment avec nous. On va continuer à prolonger le débat sur ce déplacement surprise d'Emmanuel Macron et ce trafic de drogue, vous le dites, Antoine, qui se déplace avec Paul Melun, avec Jean-Claude Dacier. On se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas, restez bien sur Europe 1.
Céline Giraud vous accompagne de 13h à 14h sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h32 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud.
Emmanuel Macron en visite surprise à Marseille, à la cité de la Castellane. Opération Place Nette sans précédent contre le trafic de drogue qui gangrène la cité phocéenne. 4000 policiers et gendarmes mobilisés, 170 points de deal ciblés. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont présenté à Gabriel Attal les 5 priorités pour sortir de la crise agricole, notamment une accélération sur la question du stockage de l'eau et des mesures fiscales pour moderniser et transmettre les exploitations. Les syndicats agricoles de nouveau reçus à Matignon lundi prochain. Anthony Blinken au Proche-Orient dans les prochains jours pour en discuter d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Le secrétaire d'État américain se rendra cette semaine en Arabie Saoudite et en Égypte. Les négociations sur un arrêt des combats et une libération des otages se poursuivent à Doha, au Qatar. Enfin, les quarts de finale aller de la Ligue des champions féminines. L'Olympique lyonnais affronte le Benfica Lisbonne, coup d'envoi 21h.
Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour, Jean-Claude Dacier et Paul Melun.
Et on prolonge le débat sur cette visite surprise du côté de Marseille pour le président Emmanuel Macron, qui est toujours actuellement au milieu de cette foule. Paul Melun, c'est pas anodin, c'est spectaculaire, oui, mais c'est pas anodin.
Oui.
Dès qu'il se déplace, il échange avec les habitants, oui, sur tous les sujets.
Absolument. Il a un vrai enjeu, là, le président de la République, parce qu'on sait très bien, quand on regarde s'approcher les élections européennes, que le chef de la majorité est celui qui va au combat pour tenter de limiter les dégâts quand on regarde les sondages des élections européennes, c'est le président de la République. Donc il utilisera tout ce qui est en son pouvoir de président, tout ce qui rentre dans sa fonction pour faire campagne. Sur les questions internationales, on en a parlé plusieurs fois à votre micro, sur les questions du conflit russo-ukrainien.
Il est d'ailleurs énormément sollicité sur ces questions par les
Riverains. Bien sûr, mais parce qu'il a mis le feu aux poudres avec ses déclarations. Mmh. Quand on dit qu'on n'exclut pas, comme il a dit, d'envoyer les troupes au sol, naturellement, vous créez une onde de choc dans le pays qui fait ou l'effet drapeau derrière le président, ou alors... À l'inverse, ce qui peut être aussi très dangereux pour sa popularité, les gens se disent « c'est un va-t-en-guerre et je vais à tous ceux qui proposent la paix, à gauche comme à droite ».
Donc, mais il y a peu de présidents comme lui qui pratique cet exercice. On se souvient de Jacques Chirac, qui aimait bien aussi les bains de foule. Mais là, il y a un échange, véritablement. Il n'esquive aucucune question.
Oui, il n'esquive aucune question. Moi, j'ai regardé beaucoup de ses déplacements. Alors, celui-là, peut-être moins que les autres. Mais dans beaucoup de déplacements, si vous voulez, c'est tout de même scénarisé. C'est tout de même, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est le village Potemkin, mais c'est organisé, les questions sont préparées en amont, les conseillers presse et communication organisent pour éviter qu'il y ait des scènes de huées, etc. On se souvient quand même du fiasco du salon de l'agriculture, où il a été reçu avec des tomates, c'est-à-dire qu'il a vraiment été très mal accueilli. Donc là, il a un enjeu, si vous voulez, à laver sa popularité, en tout cas aux yeux des téléspectateurs et des observateurs de la vie politique, tous les Français, et là c'est l'exercice auquel il est en train de s'adonner, sur un domaine, la sécurité, sur lequel il n'est pas très bon, très franchement.
Jean-Claude Dacier, est-ce qu'il a besoin de se reconnecter avec les Français, Emmanuel Macron ? Parce qu'il est fragilisé quand même.
Quand je regarde les sondages, en effet, il est sur son noyau dur à 28-29. Donc, c'est à la fois satisfaisant et insuffisant quand on veut essayer de transmettre le bâton du pouvoir à quelqu'un d'autre que Marine Le Pen ou le Rassemblement National. Nous verrons comment tout ça se terminera. Je voudrais dire un mot quand même sur l'opération anti-drogue en cours et qui va durer des semaines.
Ouais.
Elle s'appelle l'opération Place Nette.
XXL.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ou alors les mots n'ont plus de sens. Mmh. Ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de déplacer, pour répondre à notre interlocuteur,
Antoine,
les points de deal, mais qu'on va essayer de faire d'un sujet principal, central à Marseille depuis des années, un sujet, entre guillemets, relativement marginal. Quant à la légalisation du cannabis, je ne suis pas un fanatique pour continuer et débattre avec notre ami
Antoine,
auditeur de
Rampin,
mais bon, c'est vrai que c'est au cœur d'une discussion qui, je crois, ne débouchera pas pour l'heure. Pour le moment, la guerre est déclarée à la drogue, parce qu'après Marseille, semble-t-il, il y aura d'autres villes.
À suivre.
À suivre.
Ouais. Paul Melun, peut-être un mot sur la légalisation.
Sur la légalisation, moi je pense que c'est déplacer le problème. C'est-à-dire que c'est exactement comme sur les points de deal. C'est-à-dire, vous dites on légalise. Ok, parfait, mais à un moment donné, si vous voulez, les consommateurs vont peut-être aller dans des boutiques, etc., pour se procurer leur drogue. Mais la délinquance, si vous voulez, elle a besoin d'un carburant.
Ouais.
Elle a besoin d'un financement. Par conséquent, elle trouvera d'autres voies de financement. Peut-être le trafic d'armes, peut-être la prostitution, peut-être des drogues plus dures, des drogues de synthèse, etc. Peut-être plus de cambriolage. Donc en fait, le remède peut être même pire que le mal. Parce que c'est la fausse bonne idée, on va se dire on dépénalise ou on légalise, parce que c'est deux choses différentes, et ensuite les trafiquants vont se calmer. Et vous imaginez bien que les trafiquants qui gagnaient 5 ou 6 000 euros en trafiquant du cannabis, ils ne vont pas aller pointer à l'Agence pour l'emploi, à France Travail, pour obtenir un CDI au SMIC. évidemment, qui vont continuer à trouver d'autres moyens de eh bien, financer leur délinquance. Donc la vraie question, c'est la lutte contre la délinquance, c'est la lutte contre l'insécurité. Et là, j'y reviens, c'est l'angle mort du macronisme, c'est que, si vous voulez, sur les questions civilisationnelles, il n'est pas très bon. Mm-hmm. Sur les questions économiques, etc., moi, ce n'est pas tellement ma crèmerie, je suis plutôt de gauche, oui. Donc moi, c'est effectivement, sa politique ne me convient pas.
Il faudrait peut-être changer un séjour, il faut peut-être vous y mettre.
Il faut peut-être que je bosse un
peu.
Parce que
là, le déficit commence à devenir important, Gérard.
Oui. Mais enfin bon, il n'a pas solutionné non plus la question du déficit.
Certes,
mais,
non, il l'a même légèrement accru.
Il a même légèrement accru.
Si on veut
donc, si on veut être honnête avec lui, il faut aussi dire ça. Maintenant, sur les questions civilisationnelles, sur les questions d'immigration et d'insécurité, c'est là que le bât blesse le plus auprès de l'opinion publique. C'est-à-dire que les Français ne le suivent pas dans le côté l'immigration est une chance, Matteo et Kevin, etc. Là, ils commettent un péché politique qui peut leur coûter très cher. Donc peut-être qu'il essaie à Marseille de combler tout ça, mais je ne suis pas sûr que ça marche.
Paul Melun, Jean-Claude Dacier avec nous jusqu'à 14h, Europe 1 13h. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous souhaitez réagir sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Et l'autre sujet que je voulais aborder aussi avec vous aujourd'hui, c'est un sujet sensible, le changement de genre chez les mineurs. Les sénateurs LR veulent déposer une proposition de loi avant l'été pour interdire toute transition médicale avant l'âge de 18 ans. Vous le saviez, vous, Jean-Claude Dacier, que les mineurs pouvaient changer de sexe ?
Ben, on commençait à en parler ici ou là sous l'influence wokiste. C'est un des chevaux de bataille. Même,
ces associations transactivistes.
Oui, absolument. Voilà. Et on
dénoncé d'ailleurs par la droite
sénatoriale.
Ni filles
ni garçons, nous ne sommes que des constructions sociales influencées par l'environnement dans lequel nous venons au monde. Et donc, il faut nous laisser le temps de réfléchir à ce que nous sommes vraiment. Je veux bien être d'accord avec ça, sauf que ce n'est pas pour autant qu'il faut pratiquer quelque chose d'irréversible quand on a 10, 12, 13 ou 14 ans, comme ça
plus
se fait,
ça,
semble-t-il, dans certains pays. Sûr. Et peut-être même... Alors en France, j'ai un trou, je ne sais pas si déjà un chirurgien a osé trafiquer le sexe d'un enfant, je n'espère pas.
Il y a des prises d'hormones, etc., pour des enfants qui sont mineurs,
ça, c'est vrai.
De sorte à, effectivement, profondément modifier leur
Moi, j'en
leur
termine,
genre.
Je pense qu'à cet âge-là, on dit beaucoup de bêtises. C'est vrai qu'on s'interroge sur ce que l'on est, c'est classique, c'est banal, je ne suis pas pédopsychiatre, mais tout ça est connu depuis des années et des années. Simplement, décider à 12, 13, 14 ans, avec l'accord ou non de sa famille, que ça ne va pas, on se sent bien dans sa peau, n'est pas raisonnable, parce qu'on peut changer d'avis quand l'adolescence vient avec la maturité sexuelle. Donc, je veux bien qu'on donne à sa vie une orientation sexuelle telle qu'on la souhaite, mais après 18 ans. Donc, j'approuve le projet de loi.
D'autant que le profil de ces mineurs qui veulent changer de genre, je vous donne quelques chiffres. 80% sont des jeunes filles, 62% sont en dépression, 42% victimes de harcèlement, 25% en décrochage scolaire. Et une grande majorité regrette souvent cette bascule une fois la majorité atteinte. Et ce rapport sénatorial, je le rappelle, dénonce le rôle de l'influence de ces associations transactivistes et les réseaux sociaux. Paul Melun.
Bien sûr, non, mais je pense qu'alors il y a deux choses. Un, il ne faut pas sous-estimer le mal-être de ces jeunes gens et la difficulté de naître dans un corps qui ne correspond pas à ce que vous souhaiteriez être et à ce sur pourquoi vous vous sentez être. Par conséquent, quand on fait même de l'ethnologie, de l'anthropologie, quand on observe l'histoire, la transidentité a toujours existé. Oui. Donc, à certains néoconservateurs qui nous diraient que c'est quelque chose de contemporain, c'est faux, ça a toujours existé.
Bien sûr,
par conséquent, il faut l'organiser. Et le rôle de l'État et de la médecine, c'est de l'organiser. Là, la question
ce qui
de
est nouveau, c'est le changement hormonal, en fait.
Exactement.
Voilà.
À la question de savoir à quel âge il faut l'organiser, moi, je pense effectivement que ça doit se faire dans de bonnes conditions. Après 18 ans, après consultation d'un psychiatre, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, que ça doit être bien organisé, sans trouble pour la santé, parce qu'il faut aussi penser à ce qui peut arriver pour le corps humain avec ces modifications, et que à l'adolescence, il faut surtout protéger ces jeunes enfants ou ces adolescents de harcèlement qu'ils peuvent subir, qu'il faut les aider à accepter ce qu'ils sont plutôt, je dirais, au niveau de leur état civil, probablement, ou en tout cas de ce qu'ils sont du plus profond d'eux-mêmes, mais pas forcément par des transformations physiques. Vous savez, il y a des cliniques de changement de sexe aux États-Unis d'Amérique dans certains États, ils en sont revenus. Il y a eu des problèmes. Pareil avec la Suède. Moi, j'ai vécu en Suède, je connais bien. Je sais
qu'en Suède,
ils font marche arrière.
Vous êtes finalement assez d'accord pour l'adoption au moins 18 ans, mais est-ce que ça a une chance d'être voté à l'Assemblée nationale ?
Je ne sais pas.
Adopté.
D'abord, ce n'est pas un projet, c'est une proposition.
Oui,
j'ai
oui,
bien compris.
Proposition,
ça vient du Sénat.
Ça commence au Sénat.
J'espère de tout cœur, parce que c'est le bon sens, c'est l'intelligence. Il faut se méfier du wokisme. Moi, j'ai considéré longtemps, et je vais finir par pas en douter que les excès de la vision wokiste sont tels, tellement éloignés de la réalité que nous vivons tous les jours. Il y a des hommes et des femmes, hein, ça ne va pas changer demain, oui. Que ça ne durera pas. Mmh. Pour l'instant, ça dure et ça fait des dégâts. Mmh. Donc j'espère encore une fois que cette proposition de loi venant du Sénat sera votée par l'Assemblée nationale.
Allez, on reste ensemble, on en garde un petit peu sous la chaussette. On se retrouve dans quelques instants avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. On va parler de la fin de vie, le projet de loi, avec cette majorité loin d'être unie sur le sujet. Et puis ces groupes de niveau qui deviennent des groupes de besoins. Attal Belloubet, le match continue. À tout de suite sur Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 13h42.
Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 de 13h à 14h. Vous écoutez Céline Géraud avec vos deux chroniqueurs du jour aujourd'hui, Jean-Claude Dacier et Paul Melun. Céline.
Oui, le projet de loi sur la fin de vie, on en parle maintenant avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Appelez-nous si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, ça y est, l'a remis au Conseil d'État, donc la première escale d'un long processus qui vise à instaurer en France une aide à mourir strictement encadrée, présentée courant du mois d'avril en Conseil des ministres. Mais en attendant, la majorité présidentielle en a discuté ce matin en interne à l'Assemblée nationale et ils sont toujours divisés sur le sujet, notamment l'accès effectivement à ces procédures aux mineurs, à l'égalisation de l'euthanasie. Est-ce qu'on va aller plus loin, Jean-Claude Dacier ?
Écoutez, je dois reconnaître que j'ai personnellement une difficulté à me faire une opinion ferme et arrêtée sur un sujet aussi complexe que celui-là. Chaque cas est différent.
Non, mais est-ce que ce projet de loi va aller plus loin que ce que nous a présenté Emmanuel Macron ?
Honnêtement, je n'en sais rien.
Sachant que la majorité est divisée notamment sur l'accès aux mineurs.
Sur le propre projet du président de la République, où il a mis, j'imagine, un certain nombre de ses idées nées du dialogue qu'il a eu avec la Convention républicaine, avec les gens qu'il a reçus à l'Élysée.
C'est Olivier Falorni qui va diriger sans doute informations, cette commission, qui est quand même pour l'euthanasie.
Qui faille, en effet, je l'admets et le comprends volontiers, aider ceux qui veulent mourir à mourir dans les meilleures conditions, si j'ose dire, possible, je m'y rallierai volontiers. Sauf qu'on ne sait pas qui mettra la piqûre ou qui débranchera le système. Ça existe déjà dans un certain nombre de cliniques ou d'hôpitaux. Mais honnêtement, c'est...
Mais là aussi, il y a la question de la minorité. C'est surtout ça le sujet.
C'est compliqué. Ouais, et comment va réagir la majorité ? Après tout, sur un sujet comme celui-là, je ne conçois pas qu'on puisse donner, entre guillemets, des ordres de vote dans un sens ou dans un autre. On doit laisser la liberté de vote.
Paul Melun, est-ce qu'on va aller plus loin, selon vous, que le cadre qu'a fixé
en tout cas,
Emmanuel Macron ?
L'expérience nous enseigne que sur les lois dites sociétales de ce type, on va toujours plus loin. Et qu'on commence toujours par dire, vous verrez, c'est pas grand-chose, ce sera très encadré. Et puis de décennie en décennie, on désencadre tout ça et qu'à la fin, on finira avec un euthanasie où on se posera beaucoup moins de questions. Moi, je pense que la loi Leonetti, pour le moment, est bien faite. Je pense que la question, c'est les soins palliatifs, qu'il faut investir pour protéger les personnes et les accompagner au mieux lorsqu'elles ont des maladies incurables et qu'elles ont des souffrances terribles, qu'il faut les accompagner. Pour ça, il faut des moyens, que l'hôpital public a besoin de moyens.
22
Vous savez,
départements
très attaché aux services publics. Je pense que c'est vraiment là la question. Après, moi, je me méfie parce que je pense qu'il faut toucher à la vie humaine avec une main tremblante. Et que le rôle du médecin est avant tout de soigner. Ça peut paraître basique ce que je dis là.
Non, tu as raison.
J'ai vu le film Soleil Vert avec Charlton Heston, qui était un film d'anticipation où on voyait comment ça se passait la fin de vie. J'invite nos auditeurs à le regarder, c'est un très grand film. J'ai très peur de cela. J'ai très peur, si vous voulez, qu'on en vienne à techniciser, à organiser au plan mécanique la fin de vie. Et je pense que tout ça est assez désincarné, qu'il faut faire très attention. Bien sûr, il faut prendre en compte les souffrances des familles. Bien sûr, il faut entendre ce message là, mais il faut faire très attention avec ce type de débat et il ne faut pas le prendre pour un énième débat sociétal. J'ai peur que la politique politicienne reprenne ses droits et que le président de la République en fasse son mariage pour tous ou son abolition de la peine de mort à lui et qu'il s'en serve pour montrer à quel point il est progressiste. Non, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux.
D'autant qu'il y a des dérives, en tout cas, on voit par exemple aux Pays-Bas.
Bien
c'est
sûr.
Légal, on peut faire une euthanasie à deux, c'est-à-dire celui qui ne souffre pas accompagne
bien
le
sûr.
Conjoint.
L'aide à mourir,
ou les proches, qui lui
l'aide à mourir peut se transformer très rapidement en euthanasie, tout ce qu'il y a de classique. Je répète ce que j'ai mal dit tout à l'heure. Il y a 22 départements à l'heure actuelle
qui n'ont pas de soins palliatifs.
Absolument.
Ça voilà, tombe c'est bien. On a une ancienne infirmière qui nous appelle Europe 1 13h. Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de nous appeler Europe 1 13h. Ancienne infirmière, je voulais avoir votre réaction. Vous souhaitiez réagir ?
Oui, eh bien, moi, je voulais simplement dire que cette loi, c'est une tromperie parce que on n'a pas besoin On n'a pas besoin, parce que je pense que la personne doit mourir dans la dignité et on n'a pas à éliminer une personne parce qu'elle a ci ou parce qu'elle a ça ou parce que voilà quoi. Et que en fin de compte, ce qui est le mieux pour ces personnes-là, ce sont les soins palliatifs où chaque personne en fin de vie est prise en charge dans sa globalité, dans sa dignité d'être humain. Voilà. Le problème, c'est que en France, il y en a très peu. Quoi.
Oui,
voilà.
Y a, effectivement, on disait 22 départements qui n'ont pas de soins palliatifs, Monique. Et c'est le cœur du sujet, en fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement, l'accompagnement peut se faire ou pas avec les soins palliatifs.
C'est aussi dans le projet de loi, hein. Je crois que c'est le premier article. Bon,
oui,
enfin,
c'est ça.
Reste ensuite à avoir les moyens. Il y a une unité mobile, j'ai découvert ça.
Oui, oui.
Une unité mobile de soins palliatifs. Bon.
Oui, non, mais il faut effectivement investir pour cela. Moi, je pense que le vrai problème, parce que derrière, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt du sous-investissement dans l'hôpital public, je pense qu'il y a un enjeu à reconsidérer tout ça. On a considéré l'hôpital public à travers la rentabilité. Il y a eu toutes sortes de réformes, l'hospitalisation à domicile, la T2A, plein de choses qui ont fait, pour moi, du mal à ce grand service public. Vous savez, on était fiers de se faire soigner à l'hôpital public français partout dans le monde.
Oui.
Pendant des décennies et des décennies, nous étions un modèle. Nous avons des professeurs de médecine extraordinaires aujourd'hui encore, des cancérologues, des neurologues de très haut niveau. Donc, je pense que... avant de penser à la fin de vie, on devrait peut-être penser à l'investissement de notre hôpital public. Et ça comprend le sujet des soins palliatifs. Et encore une fois, toucher avec une main qui tremble à ces questions de fin de vie.
C'est
qu'on présente d'ailleurs de façon terrible quand on réfléchit à certaines associations, quand on appelle ça le droit de mourir dans la dignité. Non, c'est pas une mort plus digne, l'euthanasie, que de mourir de sa belle mort, naturellement. Donc, il faut faire très attention et c'est un débat extrêmement complexe.
Le problème, c'est la souffrance.
Ouais. Monique est toujours avec nous, infirmière, je le rappelle, ancienne infirmière. Vous comprenez, Monique, le refus, la complexité pour le personnel soignant de donner la mort?
Ben, tout à fait. On n'est pas, nous, en tant que soignants, on n'est pas fait pour donner la mort. On est fait pour les accompagner le mieux possible, écouter leurs attentes. Et puis, ce que je trouve aussi, c'est que cette loi, ça a été présenté d'une façon quand même trompeuse. C'est ce que je disais au début, parce que aide à mourir, mais on ne demande pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'une loi pour ça. Je vois pas ce que la loi fait là-dedans, quoi.
Merci Monique pour ce témoignage, effectivement, ancienne infirmière. Merci vraiment, votre témoignage était très, très intéressant. Paul Melun, Jean-Claude Dacier, jusqu'à 14h, on est ensemble. L'autre sujet que je voulais absolument aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui des groupes de niveau, qui deviennent donc des groupes de besoins. Alors le choc des savoirs, hein, le fameux choc des savoirs voulu par Gabriel Attal, aura-t-il vraiment lieu? Il a du plomb dans l'aile, hein, on peut le dire, parce que là on est quand même passé de quelque chose qui visait à l'excellence, à l'élitisme, avec une forme de hiérarchie, à quelque chose qui est au volontariat, au besoin,
oui,
où on nivelle encore une fois par le bas.
Là aussi, c'est un peu une constante, malheureusement, en Macronie. C'est-à-dire qu'on nous avait présenté la même chose avec le SNU. Vous vous souvenez, le Service National Universel. On nous dit au début, vous allez voir, c'est quasiment le rétablissement du service militaire. Et puis, on se retrouve avec un truc de rien du tout, où il y a quelques élèves qui se promènent et qui dansent avec des polos. En fait, le problème, c'est ce type de mesure, quand vous dites qu'il faut un choc des savoirs, qu'il faut repenser l'excellence, quand vous vous basez sur des constats qui sont terribles pour l'école française, vous regardez les classements PISA, on décroche
c'est terrible.
Partout. Vous regardez les élèves qui ont leur baccalauréat aujourd'hui, le baccalauréat, pardon, j'ai l'impression qu'on le donne quand même de plus en plus facilement, et que ce baccalauréat n'est plus une garantie de s'insérer dans la vie professionnelle. Qu'après on veut envoyer tout le monde vers le général et qu'après on veut envoyer tout le monde sur les bancs de l'université au nom de la massification, au nom de l'ouverture, au nom de l'égalité, mais qu'en fait, si vous voulez, on a dévalué notre système. Bien sûr que c'est un échec, mais Gabriel Attal, à mon avis, il va garder, si on veut parler de politique, il va garder en domaine réservé l'éducation nationale. Et Madame Belloubet n'est guère que la porte-parole de Gabriel Attal. Il a pris des engagements devant les Français. Moi, j'aimerais qu'ils les tiennent. Et d'ailleurs, quand on observe les prises de position passées de Mme Belloubet, elle s'opposait à bien des égards à ce qu'a dit Gabriel Attal, je pense par exemple à l'uniforme.
En tout cas, ça fait un partout, hein, parce que du coup, elle gagne ce match.
Moi, je crois qu'il y en a un qui était moins sensible au poids des syndicats, considérable, dans l'éducation nationale, que l'autre, Mme Belloubet, plus sensible, en effet, au climat qui va régner et qu'elle va être capable de faire régner dans son administration.
Ces groupes de besoins, à la place des groupes de niveau, on est d'accord, en maths et en français, c'était pas le bon.
Groupe de besoins, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, si ce n'est un tel a besoin d'un soutien d'une heure ou deux heures en mathématiques, un autre est un peu faiblard en français ou en histoire géo, je ne sais pas. Moi, je pousse peut-être un peu le bouchon, mais vous me le direz, je pense qu'on est passé à côté des chances d'avoir une vraie révolution au sein de l'éducation nationale. Parce que derrière cette querelle sémantique, querelle de mots, querelle de phrases, querelle de formules, il y avait en fait le choix chez Attal d'un retour non dissimulé, enfin pas trop, visible à l'élitisme. C'est-à-dire que l'éducation nationale recommençait, ou aurait peut-être recommencé, à se doter comme objectif, ce qui est d'une grande banalité dans tous les autres pays du monde, savoir de dégager les meilleurs.
Et
ça, c'est évidemment que non, parce que ça s'oppose au fond de caisse, au fond de ce que croit au fond toute l'institution de l'éducation nationale.
Qui est extrêmement
tout le monde se veut.
Difficile.
Là aussi, il y a de la construction sociale. Si on ne fait pas attention, bon, il faut. Alors, on en reparlera. Je m'arrête.
Vous reviendrez,
mais
on en reparlera.
C'est dommage que M. Attal, qui a perdu, entre guillemets, semble-t-il, la bataille du groupe de besoin et du groupe de niveau, en reste là. J'espère qu'il n'a pas dit son dernier mot.
Merci beaucoup Jean-Claude Dacier, Paul Melun, très vite pour de nouvelles aventures et nous rendez-vous dès 13h demain, Géraldine.
C'était Céline Giraud sur Europe 1 où chaque matin à 9h-20 dans Europe 1 Matin, Olivier Delagarde lit, analyse et commente ce qui fait la une de vos journaux. Et ce matin, il revenait sur un article du Figaro consacré au guide Michelin. Écoutez.
Il y a Stéphane Durand-Soufflant qui, lui, a mangé de la vache enragée.
Ah
dans
oui.
Le Figaro, lisez son papier jubilatoire, évidemment injuste, où il assassine le petit livre rouge. Le millésime 2024 transpire plus que jamais le consensus mou, écrit-il. Ce guide Michelin est à l'image de ses pneus, conclut-il. Un peu de matière et beaucoup d'air.
Waouh, dites donc.
Retrouvez donc la revue de presse d'Olivier Delagarde demain à 9h-20 dans Europe 1 Matin et dès maintenant en replay sur europe1.fr et l'application Europe 1. Très bon après-midi avec Christophe Ondelatte. Pour la suite, 14h-15h, on de la raconte juste après les infos d'Émilie Dez sur Europe 1.